France Inter.
C'est le moment où j'ai l'assuré de la vie avec Leïla Cadeau-Boudavie, avec Lisa Delmoitier, Emma Beauchamp, Mélodie Fontaine, Oldelave, Tanguy Bastion, Daniel Morin,
coucou,
et notre invité Mazarine Pinjot.
France Inter. Bande originale, Leïla Kaddour et Maggie.
Tu as dit bonjour ?
Bienvenue, bonjour Mazarine, j'allais le faire. J'attendais la fin de la musique. Bonjour Mazarine, bienvenue. Bonjour. Mazarine Pinjot signe, c'est sorti hier, Inappropriable.
On est très intense le matin, on est très intense.
Ce que l'IA fait à l'humain, alors c'est bien, c'est qu'entre Mazarine, Inappropriable et ce que l'IA fait à l'humain, il y a 5 fois IA dans le titre de votre livre.
C'est un code secret.
Vous vous rendez compte, même si je compte Mazarine Pinjot, quand il a fait 6, il y a de l'IA partout. Avant d'attaquer, c'est chez Climat, ce livre qui parle de l'IA, mais qui parle beaucoup aussi de la démocratie, du langage et de la politique et de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Faisons un petit tour de table sur, non pas sur l'IA, on l'a déjà fait, on l'a déjà parlé, mais qu'est-ce qui vous manquerait s'il n'y avait plus du tout d'ordinateur ? Si là, aujourd'hui, on revenait à un monde sans ordi. Lisa Delmoitier, qu'est-ce qui te manquerait, honnêtement ? Du tac au tac, tu réfléchis.
Ouais, non, je crois. Non, de toute façon, de manière générale. C'est un de mes préceptes de vie, réfléchis pas.
Je crois les vidéos YouTube de vétérans américains qui retrouvent leur chien.
C'est vrai, une passion pour toi.
Vraiment, quand
Emma,
ça va pas, je regarde ça.
Emma, qu'est-ce qui te manquerait s'il n'y avait plus d'ordinateur.
Ouais. J'utilise pas trop mon ordinateur, en vrai.
Ton téléphone.
Ouais, est-ce que la question se pose aussi pour mon téléphone?
Oui, c'est une expression voulant pour Internet. Ça va, c'est pas l'objet. Pareil. Non, c'est. Ok, la toile.
Que... Et vous me fatiguez.
Il n'y a plus d'Internet. T'as dit bonjour, Anna?
Coucou, tonton. Je crois que ce serait avoir accès aux films et aux séries et binge-watch des séries
d'un coup. Mélodie ?
Le plan. Pour me repérer, tu sais, quand tu tapes une adresse, c'est ma vie, moi, sinon je suis perdu tout le temps.
Enfin, il y avait, avant, il y avait des livres où il y avait le plan du métro.
C'était impossible à replier.
Avec des pages.
Il n'y a pas si longtemps, hein.
Ah, c'est vrai, pas si longtemps. Leïla, qu'est-ce qui te manquerait s'il n'y avait plus Internet?
En fait, j'ai les numéros de téléphone, en fait, j'ai arrêté de retenir les numéros de téléphone.
Bien sûr.
Enfin, tu ne trouves pas sur Internet, c'est un répertoire, ça.
Oui, mais c'est sur le téléphone. Enfin, j'entends. Toi, c'est Internet l'usage. Vérifier des choses, je ne sais pas, des dates de naissance, des trucs comme ça sur Wikipédia les choses comme ça. Ouais, ça me manque un peu.
Et quand j'envoie mes textes à JB, notre rédacteur, et qui me répond super par mail. Et ça me manquerait de plus avoir.
Tu pourrais le faire par fax, tu sais, avec
peut-être par fax.
C'est le. Je sais quand t'avais la ligne. ADSL, je sais plus, oui. Daniel ?
L'appli G7. Il me faut mon appli. Sinon, je suis perdu. Comment ?
Tu peux faire signe au texte.
Non, j'ai peur qu'il croit que j'ai dit bonjour.
Ah, ouais, non.
Et toi, Nagui ?
Et moi, sur Internet, ce qui me manquerait, c'est l'information au sens large du terme. C'est-à-dire, aller chercher rapide, les bio, la préparation, c'est ça. Et puis, vérifier. Ce qui est fou, c'est que maintenant, quand on va chercher une information, comme on dit, on doit la vérifier. En fait, on fait plusieurs sources, sauf qu'en faisant plusieurs sources, on tombe sur d'autres degrés de recherche, de réflexion. Et ça peut. Alors, ça va plus loin, c'est intéressant, mais c'est chronophage aussi, ça prend énormément de temps. Mazarine, qu'est-ce qui vous manquerait si vous n'aviez plus de box, plus d'internet ?
L'appli SNCF, je crois.
Ah, ok.
Je voyage tout le temps. Non, mais c'est vrai, ça change.
Alors, c'est pas le propos de votre livre.
C'est dommage.
Le propos est sur ce qui est inappropriable. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout est, enfin, beaucoup autour du langage, plus que de la méfiance des GAFA,
Oui, c'est le langage, surtout depuis 2022, où l'IA générative est arrivée un peu dans nos vies, comme ça, de manière fracassante, puisque je pense qu'ici, on utilise tous un chat GPT, ou un chat, en tout cas, je ne sais pas lequel.
C'est vrai qu'il y en a plusieurs, OpenIA, il y a le français Mistral, je crois.
Mistral,
Claude.
Claude aussi.
J'aime bien Claude.
Et ouais, Claude est sympa. Ouais. Et la spécificité de cette IA générative, c'est qu'elle nous parle. Enfin, c'est qu'elle répond à toutes les questions qu'on lui pose.
Ouais, c'est des voix créées par des plateformes, des ordinateurs, des images aussi créées, donc des informations créées, des pensées créées. Pour l'instant, on se dit, ce ne sont que des idées que des humains ont déposées sur ces plateformes, sur ces disques durs, et qu'elles ne font que ressortir en fonction des algorithmes. Vous vous dites, ça va plus loin.
Bientôt, il va y avoir un problème de dégénérescence, c'est-à-dire que la source même de ce dans quoi va chercher l'IA sera des textes eux-mêmes générés par l'IA. Et donc
c'est de la consanguinité de l'IA.
C'est de la consanguinité, et puis c'est une forme d'autonomisation de cette bulle, enfin de cette sphère qui n'a plus vraiment de lien avec le réel. Donc c'est quand même un problème pour ce qui est dit dans la relation à la vérité, notamment, puisque le langage, il est là pour dire des choses qui sont censées nous donner des informations sur le monde.
Si on prend un peu de recul sur les livres, les encyclopédies universalistes, je ne sais pas combien de volumes, où il y avait des démarcheurs qui allaient d'appartement en appartement.
Tout l'univers.
Et c'est tout l'univers, ça. Et c'était la réussite sociale si on arrivait et en achetait une.
Universaliste.
À crédit. C'est universaliste, ouais.
C'est ça. Universaliste, le moins cher, c'est tout l'univers.
Et donc, à la base, dans ces encyclopédies, il y avait des extraits d'articles d'autres livres, donc on vivait déjà cette concentration entre guillemets de différents extraits du même produit.
Bien sûr, sauf que c'était fait d'abord par des hommes.
Là, pour l'instant, c'est encore fait par des êtres humains.
L'intelligence artificielle elle-même, enfin les algorithmes, ils sont faits de manière statistique. Alors il y a encore des étiqueteurs, il y a encore des, on met encore des textes en ligne, donc c'est encore nourri par la recherche humaine. Mais la façon dont marche l'algorithme lui-même n'a plus besoin de l'homme.
Dans les livres d'histoire, comme le disait Nagui, finalement le roman national il est raconté par celui qui décide de prendre en charge le récit et donc il sélectionne un certain nombre de faits pour raconter.
Et de son point de vue.
Enfin oui et non, aujourd'hui les livres d'histoire, ils sont faits par des comités d'historiens. Enfin,
il y a quelques temps encore, c'est très contradictoire, critique.
Enfin, je veux dire,
C'était une histoire racontée par des hommes. Généralement, c'est ceux qui gagnaient les histoires qui les racontaient.
Je sais pas de quoi on parle.
On peut parler de l'esclavagisme, on peut parler des colonies, on peut parler de l'Algérie, on peut parler de.
Bien sûr, je suis d'accord.
Parlons des colonies.
Non, mais. Tout de suite, c'est que depuis un certain temps, quand même, l'histoire n'est plus écrite par les vainqueurs. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est très encadrée, avec une déontologie très spécifique.
On voit bien que progressivement, dans certains pays où certains régimes arrivent au pouvoir, il y a une volonté de réécrire l'histoire. Et de la manipuler autrement.
Bien sûr, mais ça
pour la faire apprendre autrement.
Oui, je suis d'accord. Enfin, mais la question d'écrire l'histoire ne concerne pas tant l'IA, puisque l'IA, de toute façon, d'une certaine manière, elle s'en fiche. Enfin, j'allais dire, elle est neutre, mais justement, elle est pas neutre, puisqu'elle est quand même. Enfin, c'est des algorithmes assez relativement opaques.
Et ce sont des robots. Et vous le dites en termes de démocratie et de langage, justement, y compris en prenant le nombre de followers que Trump peut avoir, où il est passé d'une manière. Il est exponentiel, en tout cas, je ne sais plus combien de millions. Il a quintuplé, vingtuplé, je ne sais même pas comment on dit. Enfin, bon, bref, c'était fou. Vous dites, non, la logique voudrait que ce soit des bots, des robots qui soient derrière ces abonnés. Et quand bien même il y aurait la moitié, ça fait quand même énormément de personnes qui suivent comme un baromètre de l'information, les fake news balancées ou les idées balancées par Trump. Il peut y avoir d'ailleurs dans ses followers des gens qui le détestent, d'autres qui se tiennent au courant et d'autres qui l'admirent. Donc il y a un tri là-dedans. Mais votre crainte, cet enjeu n'est pas tant ce que l'IA fera, on va en parler, ce que l'IA menace de supprimer comme emploi, mais c'est surtout la démocratie qui est en danger pour vous.
Oui, c'est les deux, parce que de fait, ça va
supprimer
un grand...
Le langage, donc la démocratie.
Ça va supprimer un grand nombre d'emplois, et puis par ailleurs, effectivement, c'est pour ça que ça m'intéresse, cette IA générative, c'est qu'en effet, le fait qu'elle produise du langage pose plein de nouvelles questions. La démocratie, c'est un régime qui est fondé sur le langage, sur l'utilisation du langage, sur un langage critique, un débat, dont on voit bien qu'il est relativement assez malmené aujourd'hui. Mais il est malmené, pas uniquement parce qu'il y a une polarisation, d'ailleurs, qui est aussi le fait des réseaux sociaux et ça, pas uniquement parce qu'il y a une fragmentation, mais aussi parce qu'il y a tout simplement plus vraiment d'espace public. Enfin, il existe encore puisque voilà, notre chaîne existe par exemple. Mais enfin, il faut se battre pour garder un service public de qualité.
Surtout en ce moment.
Voilà, exactement. Et donc l'espace public aujourd'hui se réduit pour mener un débat, pour arriver à dialoguer, il faut garantir des conditions. Ça se fait pas comme ça.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il se projette dans l'avenir, mais qu'il se base aussi sur les racines, sur la naissance de nos démocraties, de la société, de la République, des philosophes, de savoir aussi ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, de ne pas perdre forcément l'essentiel. C'est ça qui est... c'est l'un des angles qui est extrêmement intéressant dans le livre. Inappropriable, parce qu'il y a quand même des choses qui resteront inappropriables, comme l'émotion, comme l'humour. On s'est rendu compte, et tout le monde autour de la table a essayé de chercher des vannes aussi, ou de demander des vannes à l'IA. Certains continuent. ça s'entend.
Pour l'instant, ça fonctionne pas bien.
On s'en rend compte, et on a les noms.
Ça s'affine.
Et on a les noms. Fan de Mazarine Benjo, voici Monsieur Hold là.
Et bien justement, cette chanson a été intégralement écrite par l'IA.
Mon Dieu, quelle horreur.
Je suis fan de Mazarine Pinjo, une autrice incroyable et agrégée de philo. Comme j'aime autant le sport que la philosophie, pour les essais de montagne, je vais au rayon rugby. Oh putain d'IA. Et vous êtes là pour parler d'inappropriable. Un essai sur l'IA, vous jouez des cartes sur table. Yes. Vous questionnez le langage et la vérité. Dire que le langagement c'est déjà s'engager.
J'ai pas compris.
Dire que l'engagement c'est déjà s'engager. L'engagement, ah, c'est hyper bien fichu. C'est l'IA. On reprend, c'est ma chronique. Je suis fan de Mazarine et je rassure les sceptiques qui ont peur de l'IA et des livres philosophiques. Avant, Leïla était libraire et a connu quelqu'un qui achetait les livres de Mazarine comme des petits pains.
Chaud à ça.
Tous les matins, il achetait son petit pain jaune chez Leïla. Cadour légère lui souriait, c'était son livre sur l'IA. Car tout le temps, sa prose est belle, les clients ne voulaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très compétente, les ventes allaient croissant. Leïla prouvait dans sa boutique que les livres philosophiques, ça peut marcher autant. Oh, je suis fan et du coup j'ai une question, Mazarine. Vous êtes pain jaune chocolat ou plus chocolatine? Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Rien d'artificiel, hein, tout était...
On est désolé,
là, il faut fixer. Désolé, c'est l'IA qui a choisi les mots.
Hein. Okay, on est revenu au calembour, du coup.
Il y a un chat calembour, mon Dieu.
À Paris, au Folies Bergère, le 1er avril prochain. T'en fous de ta promo?
Venez tous, je compte sur vous, Folies Bergère.
Mazarine, revenons sur le long passage consacré au langage. J'ai trouvé ça passionnant.
Le logos.
Ouais, parce que c'était... vous dites c'est la base de tout, c'est ce que l'on risque en effet de perdre, c'est ce qui est fragile, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui permet le débat, c'est ce qui permet l'Assemblée, la République. Vous citez Rousseau, Platon. Alors tous les philosophes, d'abord j'ai l'impression en vous lisant qu'ils se sont toujours inquiétés de n'importe quel progrès.
Non, pas tous, mais
Platon s'inquiétait de l'écriture. De l'écriture.
Ouais, absolument.
C'est fou.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire de se dire justement, si on se met à écrire, il n'y aura plus le langage et ça sera la fin de notre société.
Ouais. Donc, la mémoire.
Et de la mémoire. Donc si on a peur de l'écriture à l'époque de Platon, qu'en est-il aujourd'hui de l'IA ?
Non, mais c'est sûr. En tout cas, c'est une rupture quasiment aussi grande. Enfin, on le verra dans le futur, mais je pense que il se passe quelque chose d'extrêmement important avec cette arrivée de l'IA générative. Et je ne sais pas si tous les philosophes sont techno-sceptiques, mais c'est vrai que déjà, aujourd'hui, les progrès de la technologie ne signe pas nécessairement un progrès pour la culture, pour la société. On sait qu'il y a eu un petit divorce qui s'est opéré, notamment au XXe siècle, avec la bombe atomique, par exemple. Enfin, voilà, donc le progrès scientifique et le progrès technologique n'accouchent pas nécessairement dans Progrès pour les hommes. Donc on est en droit de se poser la question.
Non, mais pour la culture, la diffusion est beaucoup plus facile avant des auteurs, des chanteurs ou des humoristes n'avaient pas la possibilité de faire des vidéos immédiates. C'est surtout le Covid, d'ailleurs, le confinement qui a dit faites immédiatement c'est homemade, quoi, grâce à l'ordinateur, faites vos trucs tout seul. Et que ce soit Stromae qui, sur un ordinateur seul chez lui, fait un énorme tube, même mondial, jusqu'à des humoristes qui ont fait des vidéos, ont explosé. Donc,
oui, mais si t'exploses pas sur Internet, t'existes pas aussi. C'est aussi le. T'es invisibilisé
c'est ce que,
aussi.
C'est ce que je dis. Avant, les artistes étaient dépendants des maisons de disques. Ouais. Sans qu'il y ait un directeur artistique qui le signe, on ne pouvait pas écouter une chanson ou un disque.
Non, mais il y a. Personnellement, je suis pas technophobe. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont formidables.
Il y a du bon et du mauvais, c'est ce que je veux dire. Ouais.
Mais en revanche, justement, vous avez parlé d'immédiateté. Je suis pas sûre que l'immédiateté soit quelque chose de si positif que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression...
On a plus le temps de la réflexion.
D'abord, c'est illusoire, parce qu'il y a une médiation. La médiation, elle est technologique. Et la technologie, elle appartient à des groupes. Et ces groupes-là, je ne sais pas si on connaît vraiment... D'abord, c'est eux, d'une certaine manière, qui tiennent... Qui ont une forme de pouvoir. J'ai l'impression d'être complotiste quand je dis ça.
Le terme médiation, c'est pour modérer les propos sur des plateformes ou, au contraire, d'être simplement celui qui transporte, qui transporte l'information.
Elle transporte l'information, mais selon des algorithmes. Je veux dire, elle n'est pas neutre.
Elle peut la transformer sans la trier.
D'abord non.
Mais les algorithmes,
les algorithmes, c'est un tri.
C'est un tri.
Et le tri,
il est dans le sens, le tri de l'algorithme. Il est dans le sens où il va vous envoyer ce que vous avez envie de voir et de recevoir.
Dans ce sens-là, mais si vous voulez poster un truc sur Internet, le seul juge de paix, c'est le succès. C'est-à-dire que ça ne va marcher que si tout à coup, tout le monde se le repartage.
D'accord, mais dans votre propre,
ce qui veut dire que ça, c'est très bien quand on est humoriste. Mais par exemple, si on lâche une énorme fake news qui est un peu excitante, un peu dégueulasse, un peu machin, ça fait partie des critères d'un succès. Ouais. Ça va être repris et absolument pas relativement à la référence, au réel et à ce qui s'est passé.
Vous le dites et vous l'expliquez dans votre livre, c'était déjà le cas de la presse. C'était déjà le cas de la presse où il y avait des articles qui vendaient plus que d'autres, il y avait des faits divers qui vendaient plus que d'autres et où on allait plus vers ce que le public voulait.
Sauf qu'on savait, savait exactement d'où ça venait, on savait à quel type journal de presse ça appartenait.
Oui, mais c'était déjà dans la nature humaine.
Non, mais bien, de toute façon, l'IA n'a pas transformé, elle a accéléré, quoique, quand je dis elle n'a pas transformé, moi je pense qu'elle va en réalité transformer les choses. Mais c'est-à-dire qu'elle va dans le sens de choses qui sont déjà là et qui sont des biais anthropologiques qui ne sont pas forcément les meilleurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, qu'est-ce qui est le plus jouissif, qu'est-ce qui est le plus rapide, le plus immédiat, on n'a pas le temps, donc il faut que ça soit.
Et qu'est-ce qui rapporte le plus
Donc ça, c'est pas des critères démocratiques en tout cas, alors ça peut être des critères pour des produits de consommation, et en réalité c'est ça le modèle. Le modèle, il est consumériste. Et donc aujourd'hui, l'information, elle doit plaire, elle doit fonctionner, elle doit être achetée, elle doit être consommée. Et à partir du moment où c'est la consommation qui devient le seul critère du succès d'un contenu, la question de la vérité et la question de la démocratie qui est à l'horizon, parce que c'est pas la même chose, la démocratie et la vérité, parce que il n'y a pas de vérité absolue en démocratie.
Un tout petit peu trop vite par rapport à la question que je vous posais.
Oui.
Dans votre livre, vous expliquez que finalement, ce qui se passe ne fait que reproduire un schéma qui a déjà existé. Celui, en l'occurrence, de la presse, celui de l'écrit, et celui de donner au consommateur l'information qu'il a envie d'entendre.
Pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, l'IA nous répond de manière immédiate. Lorsqu'on allait acheter des journaux, il fallait chercher, il fallait trouver ce qu'on cherchait. On trouvait d'ailleurs souvent pas ce qu'on cherchait, mais finalement on trouvait d'autres choses, ce qui agrandissait d'une certaine façon notre horizon, notre
espace.
Mais
on était dépendant de ce que le journal voulait publier ou ne pas publier aussi. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir aussi un silence, une omerta sur une information qui n'était pas diffusée parce que le médian ne voulait pas diffuser.
Bien sûr, mais alors, à contrario, puisque c'est là que vous voulez me faire aller, je pense pas que
l'espèce
de fascination pour la transparence, d'abord, est illusoire parce qu'il n'y a pas de transparence sur la toile. C'est complètement fou. C'est justement ça. C'est le nœud du problème. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il n'y a plus de médiation et que donc tout est vrai, tout est immédiat, tout est spontané. Et en réalité, il y a tout un tas de médiations qui sont d'autant plus invisibles que, par définition, elle ne se voit pas lorsqu'on est face à un écran. C'est toujours l'ambivalence de l'écran. L'écran, c'est à la fois ce qui montre et ce qui cache.
Alors, c'est ce que vous avez perçu. Je me suis mal exprimé. Je trouve simplement que de vos explications philosophiques qui remontent, encore une fois, jusqu'à Platon, Descartes, Rousseau, j'ai le sentiment que on reproduit finalement un schéma qui est exactement le même, sauf que ce ne sont pas les mêmes outils. Qu'en l'occurrence, l'écriture faisait peur à l'époque, comme l'IA peut faire peur aujourd'hui, que la naissance d'une société venait de la réunion justement de différentes opinions dans une assemblée, et vous expliquez dans le livre que ça ne tenait que si chaque membre de l'assemblée se connaissait, se préemptait, c'est-à-dire qu'on est loin de la démocratie.
C'est pas tout à fait le cas. Au contraire, je crois beaucoup aux dispositifs qui permettent justement qu'on puisse, qu'il y ait une forme de pluralité, que la pluralité soit possible et que la pluralité puisse se rencontrer. C'est-à-dire des gens qui pensent pas comme vous et que vous pouvez rencontrer au café. Ouais, c'est atroce. au café ou je sais pas, enfin, en tout cas, des espaces où une forme d'échange est possible. Et en fait, il y en a de moins en moins, il y en a de moins en moins de faits parce que de toute façon, on passe le plus clair de notre temps sur nos écrans et que là où on va, c'est là où on est tenté d'aller. Enfin, on a un biais quoi, qui fait qu'on va plutôt aller voir ce qui nous ressemble.
Et on peut tous se retrouver dans des endroits où on communiquait avec chacun son téléphone.
Exactement. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans une soirée de jeunes ou de regarder ce qui s'y passe.
Ils peuvent être à table, quatre au restaurant, chacun sur un écran.
Y compris même se parler d'ailleurs par écran interposé alors qu'ils sont en face.
C'est pas que les jeunes.
Pas tous les jeunes quand même.
Non plus.
Non, mais quand même, en soirée, moi j'ai remarqué quand je regarde même les soirées de nos enfants. En tout cas, ça commence comme ça. Après, je comprends parce que c'est un peu un truc qui, un inhibiteur, quelque chose qui permet de dépasser pour la timidité première. Mais c'est quand même le premier réflexe. Mais moi-même, j'ai le réflexe. Quand il y a des moments creux.
L'angle sur lequel vous partez aussi, qui est intéressant, c'est que avant, on échangeait et on s'alimentait l'un l'autre dans un échange de langage, justement, peut-être de débat. Et qu'aujourd'hui, on s'expose tout simplement. C'est-à-dire, on poste sur Internet sans avoir aucun jugement ou filtre apporté par quelqu'un ou modération même d'un ami ou d'un membre de la famille en disant « je suis pas sûr que t'aies raison ». On poste immédiatement. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre de gens qui ont vu et pas spécialement la justesse de ce que l'on a posté.
C'est sûr, la question de la justesse, elle n'est même plus une question, en fait.
Mais la question de la vérité et de la post-vérité.
Ouais. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est intéressant,
c'est quoi votre décision de la post-vérité?
La post-vérité, c'est l'idée qu'on s'en fiche, que la différence entre la vérité, le mensonge ou l'erreur n'a plus aucune espèce d'importance. C'est même pas l'idée de vivre dans un mensonge total, c'est l'idée que ça n'a plus d'intérêt. Et donc la vérité qui est censée être un peu... Enfin, la vérité, c'est un mot large. Hein. L'idée juste qu'il y a du commun, qu'on est tous... qu'on est d'accord pour dire qu'on est tous ensemble là et qu'il n'y a personne qui va dire « moi je suis en train de... »
Sauf que vous dites aussi « chacun a sa vérité ». Chacun a de son point de vue.
En fait,
on n'a pas lu le même livre.
Chacun n'a pas sa vérité.
Non, c'est des avis.
Chacun, on est autour d'une table. Chacun a un point de vue sur cette table, ne serait-ce que spatialement, puisque chacun occupe un point de vue.
C'est un angle différent.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de table.
Ouais.
Et en fait, la post-vérité, elle est allée un cran au-dessus en disant chacun a sa vérité, et si pour moi il n'y a pas de table, il n'y a pas de table, et j'ai raison parce que c'est mon avis, et mon avis compte comme le vôtre, puisque justement on est en démocratie et que
là on est dans l'excès,
c'est ça. Ouais, mais c'est un excès en fait qui est devenu quotidien. Quand Donald Trump dit que les Haïtiens mangent des chats et des chiens, mangez votre chat domestique, je veux dire, il s'en fiche que ça soit faux, il le sait très bien. L'important, c'est que ça fonctionne, c'est que ça circule, c'est que ça.
Et qu'un mensonge répété des millions de fois devient une vérité.
En fait, c'est au-delà, c'est ça la post-vérité, c'est qu'en fait, on s'en fiche que ça soit vrai ou faux. Et là, ça devient extrêmement dangereux parce
c'est
que.
Qui le on.
Bah, le on, c'est ceux qui votent pour lui. En tout cas, un certain nombre de gens qui votent pour lui et qui savent que c'est n'importe quoi. Mais pour qui c'est pas très important parce que c'est pas là où est le problème. Mmh. Et pourquoi est-ce que c'est grave de s'émanciper de ce critère de vérité? C'est que, en réalité, lorsqu'on se parle, je sais pas, là on est en train de se parler, on imagine qu'on est de bonne foi, qu'on est en train de dire quelque chose auquel on croit, enfin qu'on peut essayer de démontrer, qu'on peut argumenter. Oui. C'est la base même d'une discussion. Si je vous dis n'importe quoi là, enfin, bah ça n'a plus aucun sens le fait que vous m'interviewez. Et là aujourd'hui, on est dans un monde où effectivement dire n'importe quoi est devenu une valeur en soi parce que la valeur, encore une fois, elle est commerciale en quelque sorte. Elle n'est ni politique ni elle n'a pas de rapport avec le réel.
Le fondateur de Fox News qui disait de toute façon une fake news si vous la répétez 1000 fois. Par définition, ça devient.
Le premier, c'est Goebbels qui avait dit ça, d'ailleurs. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité.
Je connais mal sa vie à Goebbels. Je te fais confiance, Nagui.
Chez Climat, Mazarine Pinjot publie Inappropriable, qui est sorti hier. On en parle jusqu'à 12h30. Voici Lisa Delmoitier. Bravo. Lisa, vous n'auriez pas écrit un livre sur l'IA comme ça, vous ?
Non. Non, moi, j'ai pas peur de l'IA. J'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer ? Et il a dit non. Donc, je crois
tranquille.
Qu'on est bon. Hein, ChatGPT ne se trompe jamais. Non, j'avoue, de prime abord, je suis pas la plus méfiante vis-à-vis de l'intelligence artificielle. J'ai plus tendance à me méfier de l'intelligence humaine, moi. Rien que quand je vois les candidats aux prochaines élections, je suis là... Et si on votait pour un castor, cette fois, hein, pour faire barrage?
Ah oui.
Très bien.
Mais après, ça fait rire, Olivier. Mais après, je me rappelle que l'intelligence qu'on appelle artificielle n'est pas neutre, elle est créée par un humain. Enfin, codé par un humain.
Ouais.
Enfin, prompt. Bon, j'avoue, je comprends rien à l'informatique. Une partie de moi croit encore que la conception de ChatGPT, c'est juste un geek qui est éjaculé sur un clavier. Donc, QWERTY, bien sûr.
Oui.
Qui bande sur du AZERTY, sérieux. Non, et la question se pose alors de qui alimente cette intelligence. Enfin, à la base, c'est nous. Et rappelons-le, nous sommes cons. Hein. Je dirais, je nous aime bien, les humains, mais c'est quand même nous qui avons inventé la téréité, les tupperwares en forme de banane, 3 fois sur 4, pas de la même forme que ta banane. Et le parapluie pour chaussures. En vrai, c'est rigolo, le parapluie pour chaussures. C'est un petit parapluie que tu fixes sur tes mocassins pour quand tu sors du resto avec ton date et qu'il pleut, puis tu rentres chez toi et t'es là, je comprends pas pourquoi elle a pas voulu monter et boire un dernier verre. Je sais pas, peut-être parce que t'as des parapluies pour chaussures, Nagui. J'aime bien tes Louboutins. Moi, je pense que c'est quand même pas normal que dans le studio, elles aient leur propre chaise. Et Paul Delaf.
Humilié.
Donc, si c'est nous qui alimentons l'intelligence artificielle, je te raconte pas ce qui ressort. Hein. Quand je mange des Mentos et du Fanta Orange, je me t'étonne pas de chier un feu d'artifice, quoi. je parle des cons, mais la réalité, vous la pointez, Mazarine, c'est que les intelligences artificielles ne sont pas neutres, elles sont gérées par des grands groupes privés. On s'instruit donc auprès d'outils qui ont un certain intérêt à nous informer de telle ou telle manière. Si tu t'instruis auprès de Grok, hein, c'est Elon Musk quand même. Suis-je en train d'insinuer qu'il faut se méfier d'Elon Musk? Oui, hein. Absolument. Mais ça, c'est le niveau 1. Parce qu'il y a un moment, les intelligences artificielles, elles n'ont même plus besoin de nous. Elles s'alimentent entre elles en vase clos, comme des bobos en potager partagé. J'ai fait une quiche avec ton navet, Théophile. Oh, j'ai fait une soupe avec ta quiche, Valériane. Super. Moi, j'ai fait pipi avec ta soupe, Guillaume. Fun. J'ai fait un smoothie avec ton pipi, Salomé. Nice, c'est moi. Enfin, vous avez compris le principe. Donc, tu te retrouves à alimenter ton cerveau auprès de ces machines qui te régurgitent des infos hors sol, ce qui te rend encore plus con. Et voilà, type que toi, avec ton cerveau devenu plus con, tu réalimentes la machine, entraînant un niveau vers le bas, plus brutal que le passage du parrain 2 au parrain 3. J'ai toujours pas oublié. Bon, je dis ça, mais une part de moi considère quand même que l'intelligence artificielle, c'est comme toute invention. Son potentiel dépend de comment on l'utilise. Je dirais, à l'arrivée de la télévision, la radio s'est vue mourir face à cette technologie révolutionnaire. Un siècle plus tard, force est de constater que la télé, c'est juste affaire conclue et ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. C'est sympa, hein, mais on n'est pas sur un basculement de civilisation, quoi. On peut faire des bonnes choses avec l'intelligence artificielle. En plus, il y a par exemple des banques alimentaires qui s'en servent pour optimiser la gestion de leurs stocks selon les dons et les demandes. Ça, c'est un projet honorable. Il y a même une intelligence artificielle, et je terminerai là-dessus, qui se propose d'améliorer ma chronique. Pour vous dire si on peut quand même accomplir de grandes choses.
Merci. Vous avez moitié. On revient à Inappropriable, Mazarine Pinjot, sur l'intelligence artificielle, justement, qui s'auto... je crois que ça s'appelle Moltbook.
Moltbook, ouais, c'est des chats.
C'est une plateforme où les intelligences artificielles parlent entre elles.
Entre elles,
ouais.
Alors, je pense que, sincèrement, il doit y avoir des êtres humains
ça a été créé par un être humain, et ensuite...
C'est fou.
Ouais. Vous croyez que les intelligences artificielles discutent entre elles de la possibilité que les humains reprennent la main? Ça les inquiète.
En tout cas, elles cherchent à inventer un langage commun et elles ont même inventé une religion. Pour l'instant, c'est dans une forme d'humour entre guillemets.
Mais ça a été quand même proposé par un humain.
Complètement. Bah, voilà. Tout.
Non, mais juste pour pas qu'on se dise que c'est les IA entre elles qui se sont dit ah tiens, si on crée un culte au bout de deux jours, tu sais.
Mais pour en revenir à ce que disait Lisa, le fait que ça appartienne à des géants de la tech, ça doit nous inquiéter.
Bah bien sûr, parce que c'est aujourd'hui, on parlait d'espace public, c'est un peu ça l'espace public. Enfin, c'est là où on dialogue, où on apparaît, et c'est un espace public qui en réalité est privé, quoi. C'est quand même assez flippant.
Idéalement, ça devrait appartenir à qui alors? Parce que si ça appartient à l'État, c'est pire.
Je vois pas en quoi c'est pire déjà. Enfin, je veux dire, c'est pareil, c'est pareil au même. Enfin, je sais pas si c'est pire.
Si c'est un État qui décide de ce que l'on doit penser et
comme
consulter.
Comme en Chine, quoi, par exemple. Mais
c'est pour ça que j'appelle ça pire.
Ok, mais bon, d'un côté ou de l'autre, enfin, c'est pas très désirable en tout cas.
D'où ma question, ça pourrait appartenir à qui si ce n'est pas privé?
En fait, la question, c'est pas juste d'appartenir à qui, c'est qui régule, quoi. C'est là où il faut remettre de la politique. Et la politique, elle me paraît absolument essentielle aujourd'hui pour réguler. Mais pour réguler, il faut qu'on soit un peu puissant. Enfin, c'est le droit. Moi, je crois vraiment là que seul le droit peut essayer de, enfin, peut apporter une réponse à l'impérialisme total de ces grands groupes.
Et donc, il faut légiférer.
Ouais.
Ensemble.
Bah, ensemble.
Pour avoir des règles communes. Parce que c'est la problématique,
mieux.
C'est ça.
De manière européenne, ça sera encore.
Voilà,
mieux.
On peut légiférer, mais si on est seul.
Déjà ici. Hein. Enfin,
on peut pas demander à une IA de s'en occuper. De légiférer.
Et qu'est-ce qui est inappropriable? Il y a quelque chose, vous le dites d'ailleurs, c'est la fin du livre, qui ne peut pas être.
En tout cas, c'est la question. Parce qu'à partir du moment où l'IA me parle comme je lui parle, le langage, on a commencé là-dessus, c'est, enfin, pour un certain nombre de penseurs, c'était un peu le propre de l'homme, ou en tout cas l'indice de l'humanité chez l'autre. Aujourd'hui, on pourra très bien imaginer des robots faits de manière, enfin, qui ressembleraient vraiment à des hommes. Mais bon, sans même les observer, en tout cas, l'IA peut me parler à mon oreille, sans forcément prendre une forme humaine, exactement de la même manière que je pourrais discuter avec quelqu'un. Donc on pourrait se dire, si c'est plus le langage qui est l'indice de la pensée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui nous reste à nous, hommes, par rapport à la machine? Puisqu'on est clairement, la machine est meilleure que nous dans plein de domaines, quoi.
La conscience?
Alors, il y a la conscience, bien sûr. Je pense qu'il y a la conscience, mais le problème de la conscience, c'est qu'elle peut s'éprouver qu'en première personne. Je peux pas vérifier si vous avez une conscience. C'est-à-dire que je peux pas vérifier si vous êtes une machine ou pas. Et donc, ça pose une énorme question qui est celle de l'altérité, en fait. Est-ce que l'autre est vraiment un autre? Est-ce que la personne que j'aime est une machine ou est un homme ou une femme? Enfin, c'est vertigineux comme question. Et d'ailleurs, on peut faire une expérience de pensée. Moi, je me suis vraiment demandé si jamais j'aimais quelqu'un, qu'est-ce qui est le pire? C'est de m'apercevoir qu'il me trompe ou que c'est une machine? Ce qui est une autre forme de tromperie, en fait.
Sur la nature.
Est-ce qu'il y a une tromperie intentionnelle ou est-ce que la tromperie, elle est l'identité même de la personne que j'aime? En fait, ça ouvre un champ infini d'expériences de pensée extrêmement angoissantes. Et donc, ce qui est inappropriable, d'une certaine manière, c'est un peu l'inverse du projet des Musk et compagnie, c'est-à-dire justement quelque chose qui serait plus de l'ordre de la vulnérabilité, du manque. Alors, c'est toujours en lien avec mes travaux précédents, mais cette idée que la puissance, elle est du côté du tout, c'est-à-dire le savoir total, les réponses immédiates et permanentes,
ils veulent digitaliser leur cerveau et finalement
exister pour toujours.
C'est ça.
Donc c'est une forme de totalitarisme au sens structurel terme, c'est-à-dire être éternel, avoir une connaissance absolue. Et je pense que ce qui fait encore notre humanité, c'est précisément la capacité à faire une brèche dans cette espèce de totalité, à se poser des vraies questions, parce que l'IA, elle peut pas poser des vraies questions. L'IA, elle travaille sur une masse de données, donc sur ce qui est déjà là, et de façon statistique, elle va répondre en fonction du prompt qu'on lui fait.
En tout cas, à vous entendre, il faut s'en servir, sinon c'est elle qui va se servir de nous. Il faut qu'on la...
En fait, il faut s'en servir, mais...
Il faut qu'on la gère,
Le problème, c'est que... Enfin, et là, c'est un problème, là aussi, politique et structurel, c'est qu'elle va plus vite... que nous. Et donc, par exemple, on se dit qu'il faudrait faire quelque chose à l'école. Ça serait extrêmement important d'avoir une formation, par exemple, sur l'IA, comment ça fonctionne, comment il faut l'utiliser de manière intelligente sans que ça matrice complètement votre cerveau.
En 48 heures, ça devient obsolète.
C'est comment on forme les profs, comment on forme... Mais ça devient un problème énorme. Hein. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va faire de la recherche. Quand on doit, par exemple, corriger des mémoires, on ne sait pas qu'est-ce qu'on corrige. Si on corrige une machine ou si on corrige un être humain.
Vous reconnaissez les bienfaits aussi de l'IA justement sur la recherche et sur la santé, où des chercheurs reconnaissent, des médecins, des grands chercheurs reconnaissent que de mettre toutes les informations du monde dans ce cloud finit par trouver des ponts, des liens immédiats.
En fait, c'est un allié extraordinaire quand soi-même, on a déjà accompli un certain nombre de recherches, lorsqu'on a déjà musclé son esprit critique, lorsqu'on sait. Et donc, ça va nécessairement accroître les inégalités. Ouais. Parce que les plus savants, ceux qui auront fait les études les plus poussées, pourront utiliser à bon escient l'IA. Et puis, ceux qui, au contraire, n'ont pas eu accès à ce savoir-là, vont déléguer à l'IA la capacité de penser.
Ça a toujours été aussi le cas.
Oui, mais
entre ceux qui étaient dans les salons, les intellectuels qui échangeaient leurs idées.
Ok, sauf que là, c'est à bout de doigt, quoi. C'est à bout de clic. C'est-à-dire que, à la fois, c'est accessible à tout le monde, et en plus, c'est individualisé. Il n'y a plus de capacité à produire du commun.
Le pire, c'est que ça donne l'illusion que tout le monde peut avoir accès, et tout le monde a la main dessus. C'est peut-être ça qui est encore plus dangereux.
Ouais. Absolument.
Inappropriable, il y a de quoi débattre. Hein. C'est chez Climat, signé Mazarine Pinjot. Voici Mélodie Fontaine.
Je suis contente de venir ce matin. Ah oui, parce que c'est le seul moment de la journée où pendant 3 minutes 30, je peux parler sans être interrompue par ma fille. Elle me coupe, comme si j'étais le zizi de Julien Santini, quand il était enfant. Enfin, si, il a déjà été enfant, j'en suis quasiment sûre. Bon, bref, ma fille me coupe. Waouh, c'est tellement souvent que je l'entends même quand elle n'est pas là. J'en étais où? Oui, c'est ça qui est pénible, parce qu'une fois qu'elle a coupé, c'est fini, j'ai perdu le film. Et on dirait que son projet, c'est qu'on se sépare avec mon mec. Et je lui ai dit, si on se sépare, c'est pas à nous que ça va coûter cher. Hein, c'est à toi, en psy et en cacheton. Donc tu nous laisses terminer, s'il te plaît. Dès qu'on se parle d'adulte à adulte, elle s'immisce en parlant fort et en parlant d'elle. On dirait une chronique France Inter. Ouais, parce que c'est vrai que quand elle te coupe la chic, c'est pas pour une info vitale non plus. Hein, c'est souvent pour me dire que Elio a une carte Pokémon prismatique. Super. Ou qu'elle préfère le rouge, mais que maintenant c'est le bleu clair. Et bah, c'est génial. Ou qu'elle sait faire plein de trucs avec ses mains. Et même moi aussi, je sais faire plein de trucs avec mes mains, demande à Daniel. Oui, ça va, pardon. Pardon, maman, elle est fatiguée. Hein. Bon. Donc j'ai pris l'habitude, quand je veux dire quelque chose maintenant, je le dis comme jadis sur Twitter, en moins de 140 signes. Mais c'est vrai que c'est compliqué de finir une conversation au quotidien même maintenant, hein, que ce soit dans la rue ou dans un lieu public. C'est comme au resto, avec ta pote, mais c'est impossible de finir une conversation. Et donc, là, j'arrive face au gars, et tu sais ce que je lui dis ?
Le tableau des plats du jour, je vous pose ça là.
Oui, merci beaucoup, monsieur. Donc, je lui dis, le gars pète un plomb en réunion, alors moi...
Autant pour moi, il n'y a plus de macro. J'ai tout parti que je suis sûr, je ne l'avais pas dit. Bon appétit.
Ok, de toute façon, c'est pas grave, je ne suis pas très macro, j'ai arrêté tout ce qui est trottoir et travail de nuit. Donc, je regarde Baptiste droit dans les yeux, et là, tu sais ce que...
J'ai saisi la blague du macro, madame, c'était excellent.
Donc, ouais, on est en réunion.
Ça y est, ils ont choisi ?
Non, on n'a pas choisi. Et donc, là, je lui dis, écoute-moi...
Aux gazeuses, aux plates, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Baptiste, si tu...
Et voilà le petit sel.
Si tu crois, Baptiste...
Et le petit poivre, bien sûr, qui va...
Arrête de couper la parole, pardon, fumée, madame. Je vais te la mettre, ta poivrière, tu vas pouvoir te la foutre dans la rondelle, laisse-moi finir ma phrase.
Je vous en prie.
Bref. En fait, c'est presque impossible de boucler une conversation. Le silence est d'or, ça y est, c'est officiel, ça coûte une blinde d'avoir du silence, parce qu'il y a aussi le...
Oh, pardon, excuse-moi, c'est mon tel.
Non, c'est rien, mon bichon, t'inquiète pas. Donc oui, je disais, il y a aussi le problème de l'inattention... Oui.
Un collier au nom de Élodie Claudel.
Alors, qu'est-ce que je... Oui, voilà, bref. C'est 3 minutes 30 d'émission sans être coupée. C'est vraiment un petit miracle. En plus, j'avais un truc super à vous annoncer. C'est qu'après des années et des années d'attente, ça y est.
Merci beaucoup, Mélodie. C'était Mélodie Fontaine qu'on pourra retrouver. Où ça, Daniel?
On retrouve Mélodie en avril à Longchamp, c'est dans le Jura. Et sinon, on parle partout en France, non, bien évidemment.
Parce que j'avais pas fini en fait ma chronique, parce que la chose importante que je voulais vous dire, c'est que... Voilà, c'est pour moi, c'était très important. Ça m'a fait du bien de vous le dire.
Merci.
Mélodie Fontaine,
elle sera t'es sûr que c'est fini.
Elle sera à Tonnas le 18 mars à Lyon et le 10 avril à la maison, à Lille.
La musique dans l'IA, le danger de l'IA, c'est que même sur, aux États-Unis et sur les plateformes se retrouve numéro un des artistes qui n'existent pas, avec des instruments qui n'existent pas, et avec des followers qui n'existent pas, et des faux comptes Insta, ça devient totalement fou. Et quand on interroge les auditeurs, les suiveurs de ces artistes en disant « mais vous vous rendez compte que tout ça est faux », ils répondent « bah c'est pas grave, j'aime bien ce morceau, j'aime bien cette musique, c'est pas grave ». Mais heureusement, les concerts ne désemplissent pas et que les tournées cartonnent et que Aya Nakamura remplit 3 stades de France en 5 minutes et que le vivant continue en tout cas.
On pourra pas aller voir une IA en concert, ça n'a pas d'intérêt.
Mais c'est là où il y a quelques domaines comme la cuisine, comme les loisirs, un match de foot entre potes ou un concert où là, l'IA
on a besoin du spectacle, mais aussi de l'imperfection, je pense, humaine aussi.
Exactement.
C'est ça qui...
Mais je suis pas arrêté de m'interrompre, ça m'arrange.
Oui, pardon. Je suis tellement impliqué.
C'est Mélodie Maman.
La musique dans la vie de Mazarine. Luz Casal, c'est ce que vous écoutiez en 97-98, parce que cette chanson ou parce que la BO de Talones Lejones?
Parce que la BO.
Ok.
Almodovar.
Et sortie de votre premier roman,
Ah oui.
Oui, bah oui.
C'est vous. C'est le titre.
Il n'y avait pas l'intelligence artificielle.
avec des critiques vraiment vaches. Comme on peut avoir parfois des critiques un peu douloureuses sur le style, sur le contenu. Comment vous avez réagi à ce flot de critiques?
C'était un peu... Les dés étaient un peu pipés parce que en fait il y a eu il y a une grosse sortie du livre avec aussi quelques très bonnes critiques et donc qui ont été elles-mêmes prises à partie. Enfin et en fait bon je pense
c'est plus
que
plus d'un charge médiatique qu'autre chose.
Bah, en tout cas on parlait pas beaucoup du livre.
Ouais.
On parlait
plus d'autres choses. C'était un carton en plus.
Ça a bien marché mais bon c'est pas enfin vraiment. C'est vrai que c'était...
Quand même, ça... 60 000 exemplaires,
ouais,
ça va, quoi.
Aujourd'hui, ça serait énorme, mais à l'époque, c'était très correct. Ouais. Ouais.
Okay.
Ouais. Mais bon, c'est sûr que le. Bon, de toute façon, le livre, c'était pas un chef-d'œuvre, hein, c'était un premier livre. mais c'est pas ça qui s'est joué en réalité. Enfin, ça a été ultra violent. Enfin, ni la violence, ni les louanges n'étaient méritées en quelque sorte.
Ouais,
c'était très excessif.
Ouais. En 2003, Mazarine, vous écoutiez. Les White Stripes, Seven Nation Army, musique qui vous met de bonne humeur, qui vous donne envie de danser visiblement, c'est ça, de bouger.
Ah ouais, j'adore. On a beaucoup dansé là-dessus.
C'est du pogo, c'est de la danse.
Et chansons de stade maintenant, en fait.
Ah oui, exactement. Ça devient un hymne. Ah ouais, bien sûr.
Ah oui, les supporters, quand ils se lancent là-dessus, ça de...
Mais tout l'album, il était magnifique.
Carrément.
Hein.
Ouais. Carrément.
Et c'est Field dans ta chambre, à cette époque-là, sur Paris Première, où le principe de cette émission culturelle, ça balance à Paris, c'est de donner son avis sur un bien culturel.
Et c'est, balancer... pas là, où t'étais ?
Oui, ah, oui, voilà, oui. C'est là qu'on s'est rencontrés, absolument. Ouais. De donner donc son avis sur un bien culturel, ne sachant pas si la personne concernée est derrière le rideau ou pas. Et ça crée des petits moments de vertige. Votre pire moment de vertige, c'était avec qui?
Non, je peux pas le dire, il y en a eu plein. C'est horrible.
Ouais.
En fait, c'est horrible parce que quand on commence à parler d'un livre, on est emporté par ce qu'on pense pour de vrai.
Et parfois,
par sa vérité, pas la post-vérité.
Mais bon, en essayant quand même d'être... de pas non plus trop en faire parce que c'est un travail. Mais et on oublie que la personne peut arriver.
Ouais.
Et donc, quand elle arrive, vraiment, il y a des grands moments de solitude.
Ouais, j'en ai connu aussi quelques-uns et c'était un peu douloureux. Ouais.
Et on présente des excuses dans ce cas-là, on dit je savais pas que vous étiez là ou...
Non.
Non, c'est impossible à faire, en tout cas pendant l'émission. Après, parfois, on s'en veut un petit peu parce qu'on est, on a dépassé ça.
Et puis, c'est un show.
On est des humains.
Ouais. Et puis ça, parce que c'est, en fait, on éprouve la violence que l'autre reçoit aussi.
Ouais.
Enfin, et c'est le dispositif qui produit ça. On est obligé, à partir du moment où on doit le faire, on le fait. Enfin, on est payé pour faire ça.
Ouais.
Mais c'est violent quand même.
En 2014. Alors, on en parlait justement. Stromae avec Papa Outé. Et
c'est la scénariste.
Et un téléfilm.
Ouais, la scénariste avec ce téléfilm La Loire, réalisé par Christian Faure. Vous êtes co-scénariste, vous co-écrivez ce film sur l'adoption de la loi Veil en 75. Et c'est le début ensuite d'un travail de scénariste véritable installé, je pense notamment à L'économie du couple. Un très beau film, Le petit locataire. C'est une autre façon de s'exprimer au-delà du roman.
Oui, c'est une autre forme d'écriture qui est très, très chouette à faire parce qu'en plus elle était collective. Donc ça, c'était. Moi, j'ai bien aimé aussi. Enfin, j'aime toujours d'ailleurs, je continue à écrire des scénarios, mais jamais seul, enfin, toujours avec quelqu'un et en général quelqu'un que j'aime bien. Donc c'est agréable comme travail. Et puis voilà, c'est une autre forme effectivement d'écriture. C'est plus sur la dramaturgie, sur les images.
C'est laborieux comme travail. À chaque fois qu'on parle on parle peu des scénaristes en France parce que l'auteur en France n'a pas un statut complètement dingue.
Non.
Surtout quand on voit comment il est payé. Attribué vu les budgets de certains films,
c'est même honteux.
C'est une épreuve. Ouais, il y a pas de, y a aucune sécurité. C'est beaucoup de temps
c'est
de développement.
C'est le scénariste qui prend des risques et qui travaille. Ouais. C'est sur son scénario qu'on va pouvoir chercher des financements. Mais lui-même est très mal payé par rapport aux autres postes d'un film, quoi. Bon, après, il peut y avoir si le film marche bien, il peut y avoir des droits d'auteur lorsque c'est diffusé. Mais c'est vrai que les auteurs sont assez malmenés parce qu'ils n'ont pas l'intermittence du spectacle. Donc c'est vraiment un statut à part. Donc quand il marche très bien, ça va, mais quand il commence, c'est vraiment
dur. Pourquoi ils ne sont pas en grève comme avaient fait les Américains?
Parce qu'ils ne sont pas assez, assez puissants et puis il n'y a pas de collectif assez puissant. Enfin, il existe.
C'est pas aussi syndicalisé, ouais.
Il en existe, mais
c'est pas aussi fort.
Ouais.
Et à fortiori, moment de l'IA où ça risque de se générer aussi maintenant pour les films.
Ouais. Ouais, au moins pour les développements.
Alors justement, on va reparler de l'IA avec Thomas Solignac qui nous a rejoint. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Entrepreneur spécialisé dans l'intelligence artificielle. Vous avez publié l'intelligence artificielle 50 notions clés pour les nuls. Ça tombe bien. On est tous réunis là.
On les représente.
Quand vous êtes entrepreneur spécialisé dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vous avez créé votre propre intelligence artificielle.
Ça fait un peu emploi fictif quand même. Non.
C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est que j'ai créé une IA qui en fait tout simplement sait analyser du texte. C'était longtemps avant ChatGPT, mais qui n'hallucine pas. Voilà, ça a été ma toute première aventure. Et là, ça fait 2-3 ans que je m'attaque à l'urgence de la France, qui est tout simplement de transformer les PME et les ETI pour qu'elles mettent en place de l'IA. Sachant que le territoire français, c'est des boîtes qui sont très puissantes sur leur cœur de métier.
Concrètement, ça veut dire quoi, mettre en place de l'IA sur des PME?
Eh bien, ça veut dire que c'est des boîtes qui, par exemple, elles sont très très fortes sur un truc, mais un peu traditionnel. Donc, par exemple, elles fabriquent des équipements mécaniques, elles fabriquent, par exemple, du matériel médical, des choses comme ça.
Elles récoltent du vin, elles fabriquent du fromage, ouais, c'est ça. Okay,
absolument. Et là, on se dit spontanément, bon, ben, la boîte qui fabrique du vin ou du fromage, en fait, l'IA, elle n'a rien à faire. Eh bien, pas du tout. Toutes ces boîtes-là, aujourd'hui, elles ont des gains de productivité, d'efficacité, ou même des avantages compétitifs qui sont considérables par l'IA. Et mon boulot, c'est d'aller voir ces boîtes-là qui n'ont pas de compétences tech, c'est pas leur truc, et elles ont pas envie d'entendre parler d'IA toute la journée, et de les aider à essayer de trouver cet avantage-là pour rester sur le devant de la scène.
Parce qu'il y a des avantages dans tous les domaines?
Absolument, chacun. Tous les domaines ont des avantages.
Et quel est le plus gros inconvénient que vous voyez, vous, dans l'IA?
Ce que j'aimerais pas, c'est qu'on ait une concentration monopolistique des technologies. Ça, ce serait vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, les États-Unis et ou la Chine se mettaient à refermer leurs technologies subitement, de telle manière à ce qu'on devient massivement dépendant à quelques petites choses qui soient très fermées, ce serait vraiment une catastrophe parce qu'on n'aurait plus aucune capacité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe, même si on se plaint toujours d'être en retard, c'est vrai, y compris la France, il faut qu'on se bouge, il n'empêche quand même qu'on a la capacité, on a des forces de frappe en termes de recherche et de développement dans l'IA qui sont considérables. Et il faut qu'on garde cette avance-là et pour ça, il faut que la technologie reste ouverte.
Et comment éviter justement cet effet de consanguinité, c'est-à-dire de ne faire que ressortir des informations qui ont déjà été déposées dans le cloud du NIA et ne pas aller, comme on était dans l'agriculture tout à l'heure, à une tentative, je vais faire une bouture là, je vais réunir deux plantes et voir si ça va donner un nouveau fruit, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Bref, prendre des risques, aller vers l'inconnu. Parce que l'IA ne fait que ressasser, ressortir ce qu'elle connaît déjà.
Eh bien, c'est pas vrai. L'IA ne fait pas que faire ça.
Plus jamais vous me répondez comme ça.
Vous ne le connaissez pas.
Trouver une autre image, quelque chose.
C'est un fou.
On commence par pardon, monsieur.
Ok, d'accord, ça a mal se passé. En fait, on pense tous à ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est super, c'est hyper intéressant. ChatGPT, en fait, c'est un peu un bug, hein, parce qu'on regarde tous ensemble un moteur de voiture, on se dit, ah, c'est une super voiture. Non, non, ChatGPT, c'est un moteur. Et quand on l'utilise tel quel, effectivement, ça a cet énorme défaut, qui est que ça reconstruit la suite d'une phrase à partir de milliards de textes qu'il a déjà vus. En tant que tel, ça paraît pas si intelligent que ça. Mais déjà, il faut se souvenir d'une chose, c'est pas juste complètement qu'un perroquet, ça a une capacité qu'on appelle l'émergence. C'est-à-dire que de la même manière qu'à un moment donné, n'importe quelle personne qui va écrire un livre a une capacité de faire une histoire originale, quand bien même elle n'aurait que les mêmes mots que tout le monde, tout simplement parce qu'elle a une capacité à retransformer des choses, à les croiser, etc. C'est un premier point. La seconde, c'est que quand on veut une IA qui soit créative, qui invente des nouvelles choses, on n'emploie pas du ChatGPT. On utilise d'autres techniques. Par exemple, dans la médecine aujourd'hui, on a des outils d'IA qui permettent de trouver des replis de protéines qui sont uniques et qui vont permettre, par exemple, de soigner des maladies qu'on ne savait pas soigner jusqu'ici. Ce qui est une forme de créativité.
Oui, mais avec quelle assurance d'être sur la bonne piste et de ne pas essayer des choses qui sont totalement même dangereuses ou justement manipulées
on
par...
On n'a pas de recul.
Ouais, c'est non. Ça, par des gens qui sont derrière et qui vous disent « Oui, si, vas-y, fais ça », et là, ça devient très dangereux.
Bon, si quelqu'un parle comme ça, déjà, c'est louche.
La même phrase en français.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que les humains ont fait ça aussi. Hein. C'est-à-dire que de toute manière, à un moment donné, quand on a une protéine et qu'on
n'est
pas
trop sûr... Oui, mais on savait contre qui se retourner si on avait un conseil qui était donné par quelqu'un qui nous induisait en erreur.
C'est vrai. Alors là-dessus, il faut se retourner sur les personnes qui mettent en place les machines et qui les utilisent, c'est-à-dire que la responsabilité de l'IA en tant que telle n'existe
pas. Elle n'est
pas
reconnue, non ?
C'est la responsabilité des humains qui utilisent l'IA ou qui les fabriquent, assurément.
Est-ce qu'il y aura un outil pour détecter que c'est fait par l'IA ? C'est-à-dire repérer si l'iris de l'œil dans l'image que l'on voit, c'est un véritable être humain ou si ça a été totalement créé. Si je prends cet exemple, c'est que c'est déjà le cas ?
Mais non, en fait, c'est de plus en plus difficile. Par exemple, sur le texte, aujourd'hui, on considère que c'est impossible parce que vous n'avez pas assez de créativité possible dans le texte. Ça y est, l'IA fait des choses qui sont aussi créatives que nous. Globalement, on ne peut pas aller plus loin. Dans l'image et la vidéo, on arrive aujourd'hui à le détecter parce qu'il y a des, on va dire, qu'il y a ce qu'on appelle des schémas visuels qu'on repère et on se dit, OK, ça, ça a plutôt l'air d'être quelque chose d'artificiel.
Parce que pour l'instant, il y a des, les progrès n'ont pas été réalisés, même si en 48 heures, ce qu'on disait avec Mazarine Pinjot, ça devient totalement dingue. Oui. Et pour le faire et pour m'en servir et demander des choses à l'IA, il suffit que je redemande une semaine derrière pour se dire, waouh, là maintenant, j'ai l'ombre, l'eau, les éclaboussures.
Mais il faut des machines pour détecter.
Incroyable.
On peut pas,
c'est incroyable.
On ne se rend pas compte actuellement, mais c'est absolument.
Pourquoi ne pas instaurer ce qui avait été instauré à l'époque par Canal, c'est-à-dire en bas de l'image, un petit môme réalisé avec trucage, un truc qui disait que c'était.
Là, déjà, normalement, c'est le cas, là.
Mais alors, si vous faites ça, vous allez avoir quelques Russes dans leur cave qui vont inventer des vidéos sans mettre le label et plus personne s'en méfiera. Vous avez aussi le contre-risque de ça à un moment donné.
Si ce n'est pas estampillé.
Exactement. Et effectivement, la capacité de l'IA, elle double aujourd'hui tous les 5 mois. Et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est assez hallucinant. Aujourd'hui, on a une capacité à produire des logiciels, la capacité à produire de l'information des produits à une vitesse qui est délirante. Pour moi, c'est évident parce que je le fais tous les jours. Et on essaie de communiquer là-dessus, de dire, mais attention, là, il est en train de se passer un bouleversement cataclysmique. Mais on ne s'en rend pas compte à quel point ça va vite.
Donc pour vous, le plus gros danger n'est pas de ne pas se servir de l'IA et d'être l'outil, entre guillemets, ou d'être l'objet utilisé par l'IA, mais à l'inverse, de ne pas créer une IA française, voire plusieurs IA françaises, pour ne pas tomber sous l'hégémonie d'un pays ou d'une dictature.
Oui, c'est clair que quand on importe de l'IA, on importe aussi un modèle culturel. De facto, sans faire exprès, sans le vouloir, on importe quelque chose. Et donc, il n'y a pas le choix. Si on veut avoir une capacité à pousser ce qui est notre culture, nos valeurs, pour peu qu'on arrive à se mettre d'accord dessus un minimum, on a intérêt à avoir nos propres systèmes technologiques, parce qu'ils les poussent massivement, je dirais même qu'ils les automatisent.
Mais on a failli avoir le problème récemment quand les Européens voulaient interdire et voulaient bannir la technologie américaine et on s'est rendu compte qu'il y avait tous les moteurs de recherche, qu'il y avait aussi les cartes de crédit, qu'il y avait Visa, qu'il y avait Mastercard et que ce serait impossible de gérer sans.
Bien sûr. Et si vous prenez par exemple le cas de la voiture autonome, c'est fascinant. On demande à différentes cultures, différents pays, vous avez le choix entre écraser un enfant ou 3 vieilles dames. Qu'est-ce qui est le moins grave ? Et à un moment donné,
répondre. Non, je peux
répondre. C'est terrible comme exemple. Évidemment, personne n'a envie de ça. Mais ça montre qu'effectivement, plus
ça dépend.
Avance,
ça dépend pour qui ils ont voté.
Non, non.
Et si t'écrases les 4, t'as un plein gratos.
Strike.
Et voilà.
Non mais alors, c'est quoi la chute de la...
D'une manière ou d'une autre, l'IA va faire un choix. La voiture va faire un choix et plus l'IA l'IA s'immisce dans nos vies, plus elle fait des choix qui importent et qui ont un impact considérable. Mmh. Et juste, on ne peut pas dire que c'est neutre. C'est-à-dire que soit les Français ont fait un choix, les Espagnols ont fait un choix, un pays va faire un choix, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire un choix pour nous quelque part et on a intérêt à en rester maître.
Et je crois qu'il y a des IA qui rentrent même dans le milieu de l'armement, puisqu'il y a toute une campagne pour se désabonner de Spotify, pour ne pas les citer, qui aurait financé des armes qui, par l'IA, déterminent une cible. Alors eux disent, non, non, mais on va vendre cette arme qu'à des démocraties. Les États-Unis, c'est une démocratie.
Où commence la démocratie ?
Voilà, c'est ça. Voir comment est réglé le morphotype.
Ça aussi.
Bien sûr, il y a un énorme impact de l'IA sur l'armement, et c'est un des points sur lesquels il faut regarder. De la même manière qu'on a un enjeu de dissuasion nucléaire, demain on aura certainement de la dissuasion par l'IA, tout simplement parce que ça va donner une force de frappe telle qu'il va falloir à un moment donné un nouveau terrain de jeu d'équilibre des forces armées sur le plan de l'IA également.
Merci beaucoup Thomas Solignac.
Jusque-là, passez une bonne journée.
De nous avoir rappelé que nous allons tous mourir, mais visiblement plus rapidement que prévu. Merci.
Ah, passionnant.
Merci. Intelligence artificielle, 50 notions clés pour les nuls. On est un peu tous dans ce cas. Ouais. On est tous nuls. Donc on va s'intéresser à ce livre. Exactement. Tanguy Vassuro, de quoi vas-tu nous parler dans la prochaine demi-heure?
Je vais vous parler de l'IA, justement. J'ai l'impression
mais
que
non
ça tombe bien, les amis. J'ai un sujet en accord avec l'émission de Calosmos. Les vêtements anti-IA. Figurez-vous que ça cartonne.
Ah bon?
Mazarine Benjou est notre invitée. Inappropriable ce que l'IA fait à l'humain. C'est publié chez Climat, on en parle jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi, Lisa dans le moitié, Emma Beaujean, Melody Fontaine, Olga, Tanguy Passureau, Daniel Morin, et notre invité Mazarine Benjou.
La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Inappropriable ce que l'IA fait à l'humain fait. C'est pas va faire, il n'y a aucune projection. C'est déjà le cas. Et j'ai presque envie de dire, entre le moment où vous l'avez écrit et le moment où il sort hier.
C'est déjà caduque.
Il y a déjà 2-3 informations supplémentaires que vous avez vu passer, que vous auriez aimé mettre dans le livre.
Ouais, ben c'est vrai que d'écrire quelque chose sur les nouvelles technologies, enfin, et là en l'occurrence l'IA, c'est quasiment impossible parce qu'on est rattrapé par la.
Ouais. C'est comme bon, à l'époque, c'est pas non plus, c'est à pas... l'époque, il y avait des annuaires, vous savez, de sites Internet, quand Internet a commencé, on achetait des gros livres et il y avait des...
Il fallait tout taper HTTPS.
Exactement, il y avait des annuaires de sites Internet, c'était fou.
Les premiers sites en fait.
Ouais, c'était ça.
Mais bon, en réalité, c'est quand même une réflexion aussi sur l'informatisation du langage, et donc c'est plus large, enfin, ça je pense que ça va résister.
C'est très étayé, parce que je pense que dans votre livre, il y a la moitié de ce que vous avez écrit, l'autre moitié ce sont les notes et les références pour prouver que vous avez travaillé, c'est un travail très universitaire. Que tu avais fait. Non, mais j'exagère évidemment dans les proportions, mais il y a un nombre d'articles, de références et de livres que vous avez potassés. Ça vous a pris énormément de temps quand même pour être sûr d'être sur la bonne voie, non?
Bah, c'est mon travail, quoi. Enfin, je sais pas, je saurais pas quantifier en temps. C'est une réflexion qui s'inscrit depuis longtemps, et puis après, c'est la. Ouais, je sais pas.
En fait, la suite logique, c'est en une phrase, la vérité, la post-vérité, le langage, l'altérité, la conscience sont les étapes par lesquelles vous passez. C'est ça pour nous expliquer votre cheminement.
En fait, moi, ma grande question, elle est double. Elle est à la fois sur celle du langage, pour des raisons très politiques, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le matériau même de la démocratie, mais c'est aussi, par ailleurs, mon matériau de travail, puisque c'est l'écriture, c'est la création littéraire. Donc,
et c'est ce qui fait la cohésion de notre société
exactement.
aussi.
Exactement. Et puis, de l'autre côté, c'est la question, en effet, de la vérité, de la post-vérité, dans laquelle s'inscrit forcément l'IA, et puis cette espèce de... Voilà, la place que prend Internet dans nos vies, c'est-à-dire comment le monde virtuel est en train de se substituer au monde réel, cette espèce d'autonomie de ce monde-là.
Et l'altérité et la conscience, c'est-à-dire...
Et donc, voilà, absolument. Et donc, l'altérité...
Comment percer certains endroits de la réflexion.
Exactement. Et l'altérité qui reste le lieu même de notre humanité, de la rencontre, de l'amour, de l'amitié, enfin, ces espèces d'endroits un peu fragiles, difficiles à construire, compliqués, qui qui produisent de l'angoisse, de l'inquiétude, mais aussi alors, du bonheur. Enfin, voilà,
c'est tout ce qui est intouchable, c'est ce qui est tactile, ce qui est gustatif, ce sont les odeurs, les goûts, les caresses.
Tout ce qui est de l'ordre, c'est intéressant la question du corps, justement, parce que évidemment, ce monde virtuel, il est très peu incarné par définition. Alors, il y a quand même le doigt, hein, puisque sur nos écrans tactiles, on utilise quand même beaucoup notre index ou notre pouce, voilà, ça dépend des générations. Mais voilà, c'est le seul lien vraiment physique qu'on ait finalement, et c'est assez étonnant. Alors, il y a aussi évidemment les yeux, mais finalement, il y a assez peu d'engagement physique corporel, il n'y a pas d'émotion corporelle.
Il n'y a pas le goût. Je parlais de la nourriture, par exemple.
Je lèche mon téléphone, moi, personnellement. Pardon, chacun fait ce qu'il veut tous les matins.
Mais il y a même une forme d'oubli total de soi, quoi. C'est-à-dire que, quand même, les mecs qui réfléchissent le plus aujourd'hui et qui ont une influence, par exemple, sur les Trump et compagnie, c'est fondamentalement des geeks, c'est-à-dire des gens qui ne sont jamais sortis de chez eux, qui passent leur vie devant leur ordinateur, des gamers. Des gens qui regardent aussi, enfin voilà, qui c'est la culture profonde du net, quoi. Et donc la question du corps, elle est super importante et intéressante, et notamment, et c'est ça que je trouve très très étonnant, c'est que l'autre grande question d'aujourd'hui, c'est la crise climatique, c'est la biodiversité, mais surtout ce qui devrait nous inquiéter, à savoir le réchauffement climatique, ça c'est quelque chose d'éminemment physique. Enfin, je veux dire, on peut pas faire l'impasse sur l'aspect sensible de la chose. On voit, il y a des pluies, des inondations, etc. Bon, ben ça, l'IA, elle peut certes le mesurer, le quantifier, faire des prévisions, etc. Mais enfin, l'inondation, c'est nous qui avons les pieds dans l'eau. Donc...
Elle peut même les provoquer par sa consommation des ordinateurs aussi, qui tournent. C'est justement, on va en parler en quelques instants, notamment avec Tanguy. Je rappelle, Mazarine Pinjot, c'est publié chez Climat, s'appelle Inappropria. Voici Tanguy Pinjot.
Bien, j'explique pour les éditeurs qui ne mettent France Inter que pour ma chronique, la team Loulou, hein, je vous bise les amigos. Ce moment délicieux fait partie d'une émission, La Bande Originale, présentée par Lila Kadour et Nagui, énergique duo qui tourne à la spiruline et aux graines de chia. À leur côté se trouvent des précaires, Lisa, Mélodie, Emma, qui sortent crève la dalle mais profitent de la fraîcheur de leur jeunesse, certaines plus que d'autres. Enfin, il y a Daniel Morin, un ancien de l'Indochine qui fume des camels sans filtre et fait l'amour à la papa. C'est le Hunter Thompson du Val d'Oise. Et Old Olaf, notre gentil baladin, dont la pilosité rappelle celle de Pumbaa le facochère. Oldelaf fait 5 chansons par semaine. C'est lui qui plombe les comptes de la SACEM. S'il décède le même jour que Jules, on sauve cette caisse de droits d'auteur. Et Nagui, en début d'émission, tente de faire exister l'équipe à travers un tour de table qui finit souvent en moment gênant, à travers de questions intimes comme « Et vous, votre première fois ?» ou « Et vous, votre deuxième fois par rapport à la première ?» ou « Et vous, votre troisième fois ?» Y avait-il des accessoires ou un ami ? Nagui consigne tout dans son carnet Secret Girls, qui dispose d'un petit cadenas rose, son code est 69. Et à chaque fois qu'on menace de quitter l'émission, conscient qu'avec son sens de l'humour à lui seul, ça marchera pas, il menace de livrer des infos à l'un de ses proches, Jean-Marc Morandini. Et l'autre jour, Nagui nous a demandé quel était notre geste écolo. J'ai répondu tuer des gens, parce que moins on est, moins ça pollue. La dénatalité, c'est formidable. Mais j'ai bien vu que la proposition faisait un flop. C'est là qu'Oldelaf a dit mon geste écolo, c'est de ne pas utiliser l'IA. Il nous a tous impressionnés. Ça a été la seule fois. Et il a raison, monsieur Hull. En équivalent de ressources, 25 questions posées à ChatGPT, ça revient à un demi-litre d'eau consommée. 12 pastis pour nos amis de la région PACA. Je présente mes excuses par rapport à cet accent. Je l'ai fait parce que j'adore les accents et qu'on ne peut plus faire l'accent africain. Ça serait raciste, apparemment, ainsi que les blackface et le fait de coloniser des pays. Vraiment, on ne peut plus rien faire. C'est du racisme anti-blanc. Bien, sortons de ce dérapage digne des plus belles séances de drift en coupé sport et revenons au sujet initial, l'IA ou l'IA, comme diraient les cow-boys. Oui, le mois de février est difficile à traverser, ne me jugez pas. L'IA, donc, c'est fou. Vous avez vu cette vidéo de Tom Cruise qui se bat contre Brad Pitt. La scène n'a jamais existé. Le dernier film qu'ils ont fait ensemble, je crois que c'est Entretien avec un vampire en 1994. J'avais adoré, même si j'y croyais pas du tout, deux hommes qui ne s'évanouissent pas à la vue du sang, ça paraissait pas crédible. Et là, on les voit se battre, une scène incroyable. Avec l'IA, rien n'est réel. Hollywood enrage. Et on réalise qu'à terme, les acteurs vont vendre non plus leurs prestations, mais leur image. L'avatar numérique de Brad Pitt aura un agent qui dira sera OK pour 30 minutes avec l'image de Brad, où on le voit sauter d'un hélicoptère, jouer au Uno et tirer des roquettes en bouffant des chips. Hop, signature. Et Brad Pitt restera à la maison tranquillou à regarder son corps en faisant « Hey !» Tandis qu'un seul type dans un studio dira à une IA « OK, on a une heure pour faire le film. Ensuite, on signe l'avatar de Suzanne Lindon pour un film qui se passe à Paris dans un bar à matcha. » Et hier, j'étais sur le site de la Vieille Garde, un EHPAD pour gauchistes de 82 ans. Je regardais les tarifs pour quand je serai vieux, parce que peut-être que je voudrais retrouver l'ambiance d'Inter. Quand je suis tombé sur un article de l'Express à propos des vêtements anti-IA. Un vêtement anti-IA, c'est pas un t-shirt super dry à ce point flashy que ChatGPT vous dit « Tant que tu t'es pas changé, je refuse de dialoguer. » Ce sont des fringues qui, dans la rue, permettent de se masquer. Ce que j'explique, vous savez qu'il y a des caméras dans tout l'espace public. Moi, je le sais. C'est pour ça que quand je marche, je fais ce déhanché salace qui chauffe les agents chargés de la surveillance. J'ai toujours eu ce petit côté allumeur. C'est pas du tout ma hanche qui se déboîte, comme vous le pensez, à cause de mon âge. Les forces de l'ordre exploitent 100 000 caméras en France, plus il y en a 2 millions dans les magasins, les entreprises, partout. Toute la journée, en fait, on est filmé à Inter, il y en a même dans l'ascenseur. C'est pour ça que souvent je repousse Daniel en lui disant « Chichou, on nous voit ». Et de plus en plus, dans ces caméras, qu'est-ce qu'il va y avoir ? De l'IA. Dans certains pays, c'est déjà le cas. Vous traversez hors du passage piéton. 3 jours plus tard, vous recevez une amende. L'IA vous a repéré. Ses paupières tombantes, cette bouche sale, ses pellicules dans les cheveux, ça c'est Jean-Pierre, hop, amende. Hein ? C'est pour ça que dans les manifs, certains ont des parapluies, des cagoules. C'est pour perturber l'IA, parce que moins il y a de données faciales sur vous, moins l'IA vous remet, comme le taliban de Kaboul. S'il a 3 femmes, toutes en burqa, il va dire « Josie, je sais que c'est ton anniversaire, mais si tu me dis pas laquelle tu es, ça va être compliqué de t'offrir ce fouet certi de Charms de chez Pandora, dont je vais me servir. » Le principe des vêtements anti-IA, en fait, ça consiste à détourner l'attention de l'IA. Si vous avez un col roulé et une veste, l'IA se dit « Ok, c'est Pierre Lescure. » Bon, c'est beaucoup trop simple. Il faut donc ajouter des infos pour la décontenancer. La tenue anti-IA, ce sont donc des couleurs criardes, des formes désordonnées, des imprimés saturés. C'est là qu'on réalise que Nagui est habillé anti-IA depuis 35 ans. Hein, même les photomatons ont bugué quand il a voulu renouveler son passeport. Aux États-Unis actuellement, les vêtements anti-IA, je vous le dis, voient leur vente exploser. Pourquoi, à votre avis ? Ne répondez pas, cette chronique est un simulacre de démocratie. En réalité, c'est mon moment. Eh bien, c'est pour tromper la police de l'immigration qui utilise des outils de reconnaissance faciale. En gros, il y a des milliers de Mexicains en sweatshirt désigual à capuche qui se cachent comme ils le peuvent pour ne pas être filmés et ne pas être reconnus. Avant, on voyait des autocollants, vous sonnez à quelques endroits précis, il y avait marqué « souriez, vous êtes filmé ». Et ben maintenant, souriez en permanence, parce que vous êtes filmé tout le temps, les gars.
Merci. Tanguy Pastureau.
La tournée continue. Demain, il sera à Caen, au centre des congrès.
Oui. Mazarine Pinjot signe Inappropriable, ce que l'IA fait à l'humain. C'est publié chez Climat. D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler de Jeffrey Epstein avec ses millions de documents mis en ligne par l'administration américaine. On découvre en effet les relations du pédocriminel condamné, alors que ce soit des personnes qu'il a pu croiser. Ça ne prouve jamais rien, c'est toujours la défense des personnes qui sont évoquées dans ce listing. Mais aussi, on voit apparaître, plus étonnant, une œuvre littéraire qu'Epstein avait l'air d'aimer beaucoup, beaucoup.
Lolita ?
Absolument, Lolita de Nabokov, il vouait un culte à ce livre, au point d'en posséder une édition originale, d'avoir acheté à plusieurs reprises en ligne ce livre aussi en version numérique.
Je crois qu'il avait acheté plusieurs fois le livre qui lui était consacré. Il y avait une bio de Epstein qui était sortie, il en avait acheté, mais
pour l'offrir
à une œuvre littéraire.
Ouais.
Non, c'est pour faire des ventes.
Mais c'était à charge.
Mais Lolita, c'est le nom de sa compagnie aérienne ou de son île.
En fait, c'est le surnom de son Boeing Lolita Express, absolument. Il y voyait une sorte d'éloge vraisemblablement.
Vraiment, il y avait pas d'indemnité.
Voilà. En même temps, c'était obvious.
Justement, c'est intéressant de savoir quelle est, et on va faire un tour de table, l'œuvre littéraire préférée de chacun, parce qu'elle nous renseigne sur qui nous sommes.
Ouais, ça,
Lisa, on commence avec toi.
Un tour de table.
Le mythe de Sisyphe.
Le mythe de Sisyphe, Camus.
On finit. Ouais.
Emma, qui me représente.
Ouais, que tu choisis ton œuvre littéraire.
Oh, la panique dans le regard.
Réfléchis les autres. Ouais. Vas-y, Emma.
Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu quand j'avais 15 ans, c'est Danser au bord de l'abîme de Grégoire de la Cour, et que je relis presque une fois par an, que j'adore.
Ok, ouais.
Chez moi, Bovary, je crois, j'aime bien.
Okay. Bovary.
Ouais.
Okay. Le livre qui me représente, c'est American Psycho.
Oui.
De Bret Easton Ellis.
La routine du matin.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Et du soir aussi.
Vu des gens manger des rats.
Pour l'instant, à part Tanguy, on n'a pas de gros. Ouais, ça va.
Daniel ?
La Bible.
Laquelle ? L'hypocrisie de Daniel, moi je dirais de ce côté-là.
Non, Nagui. La Bible.
Nagui ?
Le prophète Kaïl Gibran, ouais.
Ouais, bon, on est plutôt old enough.
Moi je dirais le petit prince.
Ok. Oh. Et à vous, Mazarine ?
C'est difficile. Je sais pas, peut-être les frères Karamazov.
Pourquoi ?
Parce que c'est des. Enfin, l'idée, parce que toute l'œuvre de Dostoïevski, en fait, l'idiot aussi. Mais l'idiot, je me suis dit, c'est. J'allais faire une vanne. J'ai évité. Mais bon, quand
on
même.
Là, on n'est pas là pour faire des.
Non, j'avoue, depuis le début, j'ai bien remarqué. Mais. Non, mais on a le droit d'aimer Nabokov sans être un pédocriminel, quand même.
Bien entendu.
Sauvons la littérature.
Et de voyager dans l'avion des Chinois.
Ça dépend comment on lit.
Il y a peut-être des gens qui se retrouvaient sur l'île sans vraiment savoir.
Non, mais. Garde ça pour ta défense. De toute façon, j'ai tapé Tanguy Pastureau.
J'ai tapé moi-même au cas où.
Autre question, on cherche une exposition qui a été retirée. Elle était à Philadelphie aux États-Unis, alors que le pays fêtera les 250 ans d'existence. Une exposition en plein air. D'après vous, sur quel sujet ?
Elle a été retirée de l'exposition.
Elle a été retirée de l'exposition.
Certainement ou non ?
Pas loin.
Les Amérindiens peut-être ?
Non plus. Non, mais un autre événement important.
Ouais. Ah, c'est Black History Month.
Sur l'esclavage, absolument. Ah, oui. Une exposition démantelée à la demande du président des États-Unis. Yes. Exposition installée dans le parc historique national de l'indépendance, là où se trouve la première résidence officielle du président des États-Unis, George Washington, où cette exposition relatait en effet l'existence de l'esclavage, le déroulement d'un certain nombre de faits factuels. Bref, une tentative de blanchir l'histoire des États-Unis. Est-ce que en France, il y a un sujet historique qui vous fait honte ? Dans l'absence de reconnaissance de la France ou dans la difficulté de la France.
Parce qu'il y a des sujets historiques qui font honte,
Non, mais dans la difficulté.
C'est le principe même de l'histoire, il me semble.
Ouais, mais dans la difficulté à reconnaître les choses ou à vouloir peut-être les minimiser. Est-ce qu'il y a, en tant que citoyenne, il y a quelque chose qui vous perturbe?
Je sais pas, j'ai l'impression que le travail sur l'Algérie, quand même, maintenant, commence à être bien fait et que la reconnaissance, enfin c'est enseigné quoi. Enfin après il y a toujours un temps de latence entre la reconnaissance, le travail des historiens et puis l'enseignement. Ouais. Mais
à plus court terme, plus récemment.
Je réfléchis là sur du tac au tac. Justement, le problème du court terme, c'est que, comment faire un travail de connaissance vraiment sérieux si c'est du très court terme, je sais pas. Mais je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Je pense que j'aurai
Après.
J'aurai la réponse dès que je sortirai du studio. Bon, merci pour ce moment de.
On va vous équiper d'un petit micro et on va vous suivre toutes les
heures.
Inappropriable, voilà. C'est Mazarine Benjo qui signe ce que fait l'IA à l'humain. Conscience, langage et altérité sont les trois chemins de résistance, entre guillemets, face à l'IA. Oh. Voici un hommage rendu par Emma Beaujean.
Bonjour, bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux chauffeurs VTC. Et oui, je veux faire cet hommage aux chauffeurs privés, un peu pour vous faire croire que j'ai percé et que je prends des chauffeurs privés régulièrement. Mais la réalité, c'est que pas du tout. J'ai pas percé, à part les capotes de mon mec, parce que je vois un bel avec les petites aiguilles. Voilà. Et non, la vérité, c'est que je prends pas du tout des chauffeurs privés. Enfin, je prends un Uber une fois par semaine quand je rentre du théâtre Le Pic où je joue mon spectacle tous les mardis à 19h. Hashtag collaboration commerciale. Ça va, on peut faire sa promo dans cette émission quand même. C'est pas interdit. Sinon, enfin, je voudrais aller dire ça à Pierre Ninet. Il a fait tellement de promos pour Gourou. En ce moment, je vois vraiment plus que mon propre père. Ah non, ça c'est parce que ma mère l'a largué parce qu'il a trompé. Non, mais vraiment, depuis la promo de Gourou, je fais des paralysies du sommeil, d'accord ? Où coach Matt vient dans mon salon la nuit et je secoue Pierre Ninet. Je lui dis, mais je vais venir le voir ton film, Pierre ! Je t'en supplie, arrête de t'introduire chez moi dans les fractions à 3h du mat ! Et après, dans mon rêve, je frappe mon père avec des Mr Freeze. Bon, ça c'est l'autre partie de la thérapie. Hashtag EMDR. Et oui, dans une thérapie EMDR, il n'y a que le nom qui est marrant. Mais donc, je prends un Uber parce que je suis chargée, et je parle pas uniquement d'être Géchard avec ce boule qui chamboule, je parle bien de mes accessoires de scène, car vous l'ignorez peut-être, je suis humoriste, mais avant tout ventriloque. Et oui, sur scène, j'ai une grosse peluche d'Old Olaf, assise
sous mes genoux. À la fin, on lui fait prendre une douche et tout. C'est très marrant et assez innovant. Et donc, sur le retour, je m'autorise à prendre un Uber, mais attention, un Uber Share. C'est-à-dire que le concept, en fait, c'est que tu partages cette course avec d'autres clients qui font le même trajet. Voilà, le concept, c'est de partager. Ah oui, attends, Tanguy, il faut que je t'explique. Bon, on n'a pas le temps. Mais c'est assez fou parce que si ça me fait économiser 4 euros, si, bah si, mais regardez pas comme ça, c'est quand même une semaine de travail à France Inter. Il n'y a pas de petites économies. Et bien, en contrepartie, je fais un trajet avec d'autres gens qui, comme moi, sont dans une vie, comment dire, en ce moment, dans un entre-deux. Disons que si la vie est un sandwich au caca, en ce moment, on n'est pas dans le pain. Et c'est aussi parfois le cas des chauffeurs eux-mêmes, on les embrasse, on a plusieurs profils. Soit le gars qui ne dit rien, et des fois c'est pas plus mal, soit il est dans ma catégorie, bref, les bavardeurs, les conteurs du périph. Celui qui te raconte les pires clients de la soirée. Et toi, tu te tiens à carreau, tout bonnement, parce que tu n'as pas envie qu'il parle dans ton dos au prochain client. C'est absurde. Racheter avec une bouffonne qui se prend pour Pierre Ninet et qui n'est même pas capable de payer une vraie course. Non, merci, Émile. D'ailleurs, je me souviens d'Émile, un chauffeur qui me racontait son futur business de cookies avec de la beuh en dessous pour livrer légalement de la beuh. Alors, comment lui dire en fait, même s'il y a un cookie dessus, c'est illégal dessus, en fait. Désolée de te outer à l'antenne, Émile, mais si tu te livres aussi facilement au premier venu dans une voiture des premiers soirs, enfin après, tu vas voir, on va pas te rappeler, tu vas être brisé parce que les hommes, c'est tous des merdes. Parce que vous êtes... Pardon, je me suis perdue. Et du coup, non, récemment, je sortais de Montparnasse et je me suis fait prendre par Mehdi. Et après, j'ai pris un Uber. Oh, je déconne. Je me suis fait prendre en voiture par Mehdi. Et en plus, il est extra et c'est pour ça que je vais vous en parler. Avant de commencer la course, il m'a demandé si on pouvait parler. Moi, je venais d'apprendre un drame dans ma vie perso. On en a parlé vu que ma psy avait pas de dispo avant mi-mars. Parce qu'elle a d'autres patients, cette folle. Et avant que je lui explique mon cas, il m'a parlé, lui, de la boîte d'analyse financière dans laquelle il était il y a un an. Juste après son bac plus 6, c'est cette boîte qu'il a larguée du jour au lendemain. Sûrement un homme à la tête. Et à quel point ça avait été la galère à cause du crédit pour son pavillon avec sa femme et son bébé de 9 mois. Il m'a expliqué qu'il essayait de faire de cette merde quelque chose de très beau. Alors il s'est réorienté, il a repris les études à distance, en même temps que faire des courses en voiture du lundi au samedi, 8 heures par jour. Il m'a raconté qu'il a trouvé le courage de changer de vie à la suite de cette galère. Et du coup je partage avec lui, que sans cette galère-là, ce ne serait pas arrivé. Alors c'est pour tous les gens qui ont le courage de m'aider que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Joli. Emma Beaujean,
la tournée
au Théâtre
continue.
Le Pic, donc.
Théâtre Le Pic, c'est le mardi, c'est à Paris, c'est avec à 16h. Je peux faire sa promo. Demain, elle sera à Metz.
Mazarine Pinjot, on parlait tout à l'heure, on parle d'inappropriable chez Climat, donc de vos écritures de scénar. Vous êtes en train d'en préparer un, vous en avez commencé ou fini un autre?
Oui. Je suis au milieu. Enfin, il y a plusieurs scénarios.
C'est sur quel sujet?
C'est des histoires. C'est pas des sujets.
De quoi? Pardon. Histoire de quoi?
Il y en a un. C'est une adaptation d'un livre d'un jeune garçon qui voit arriver dans son village des réfugiés. Enfin, voilà, une famille de réfugiés. Donc, l'un des garçons devient très ami avec l'un des garçons. Et bon, je ne spoil pas parce que ça se passe
aujourd'hui.
Ouais, ça se passe aujourd'hui. Voilà, et puis...
Et c'est pour le cinéma ou pour la télé ?
Pour le cinéma, ouais.
D'accord.
Et puis un autre... Enfin, en fait, les scénarios, il y en a qui sont en développement, d'autres qui se terminent, donc on est au début. Donc là, il y en a un sur lequel on est en train de réfléchir, mais qui n'est pas encore...
Quand vous dites « on », c'est vous ?
En ce moment, je travaille avec Pierre Corré, qui est un réalisateur et qui est par ailleurs un copain. Et voilà.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien entendu, désolé pour nos fidèles auditeurs qui m'ont signalé que la bande originale était au quotidien depuis 12 ans. Déjà un très très bel exemple, très très concret, d'intelligence artificielle, très artificielle. Ils ont même insisté en disant « voire factice ». Et c'est vrai que quand je fais un rapide tour de table, ça sent pas le prix Nobel, sent même pas le brevet. Je suis tellement fier de cette équipe. Désolé pour Monsieur Platon qui ce matin a été traité de philosophe flippé par l'écriture. Alors non, Monsieur Thon, on voulait pas vous manquer de respect. Mais en même temps, si vous aviez vraiment peur de l'écriture, c'est pas faux de dire que vous étiez peut-être un sacré débile. Du coup, vous auriez toute votre place dans cette émission composée de complotistes et bien sûr d'analphabètes. Désolé pour notre invité Mazarine Pinjot, agrégée de philosophie normalienne, romancière, scénariste, qui s'est retrouvée à devoir affronter Old Love et sont désormais mythiques
Pinche au chocolat ou chocolatine? J'ai rarement été aussi fier
de quelqu'un. Désolé. On est désolé. Merci Mazarine d'être venue dans cette émission.
Merci à vous.
Inappropriable. Je me demande si c'est pas la première émission que vous faites en promotion sans que jamais on ne vous parle de votre père. Je me pose la question.
C'est fait.
Demain, Evelyne Wiggs et Nicolas Briançon seront nos invités. Passez une belle journée sur Inter. À demain, merci. Bonjour Dorothée Barba, aujourd'hui dans les carnets de campagne, que se passe-t-il ?
Des initiatives en Corrèze toute cette semaine et aujourd'hui je donne la parole à une association qui recueille des animaux abandonnés. À tout de suite.